Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview. Interview que vous pouvez retrouver sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes avec Bernard Cellier. Bonjour.
Bonjour.
Alors Bernard, vous êtes ici pour nous présenter Marignac, Fête les étoiles.
Oui, ce sont les quatrièmes rencontres d'astronomie qui auront lieu fin juillet, la dernière semaine, le 26, 27 et 28 juillet, à l'aire de loisirs à Marignac-en-Diois.
Alors, c'est une invitation sur une aire de loisirs, c'est ça ?
Alors, c'est une aire de loisirs communale où il y a beaucoup de place pour pouvoir exprimer tous ses talents et puis aussi faire des rencontres et des manifestations, soit sportives, soit culturelles. Et cette année, c'est une quatrième année parce que ce sont les quatrièmes rencontres à caractère scientifique où nous aurons des télescopes, mais aussi cette année, nous insistons beaucoup sur la formation et sur la compréhension de l'univers qui nous entoure, et notamment avec des appareils adaptés pour les enfants.
Chaque nouvelle nuit à Marignac s'en va grandissante
Oui, c'est vrai, vous avez raison. La première année, c'était une nuit, après ça a été deux nuits, et maintenant c'est trois nuits à la demande d'un groupe d'astronomes qui était désireux de réaliser ce projet de formation et de... Pour comprendre l'univers, les planètes, quoi, les étoiles, les planètes, voilà.
Le choix de Marignac est dû aussi à la topographie, et puis aussi où il y a très peu de lumière, c'est ça, incidence lumineuse.
Alors, il y a très peu de pollution lumineuse, vous avez raison, d'autant plus que le village est éteint la nuit, mais là, l'aire de loisir est excentrée du village, donc il n'y aura pas de pollution lumineuse. Et puis, nous avons une qualité du ciel qui est très intéressante pour l'observation.
Vous parliez tout à l'heure d'astronomes. Est-ce qu'il y a des personnes reconnues dans ce domaine et qui seront présentes ?
Alors, il y aura Monsieur François Legendre, qui est historien de l'art, mais aussi astronome passionné, et qui nous fera une conférence le mercredi 26 juillet sur l'astronomie dans l'histoire de l'art. Et aussi l'espace de l'astronomie, espace de l'art, le vendredi 28 juillet à 20h30.
Par rapport à l'astronomie et l'histoire de l'art, est-ce qu'on peut inclure aussi la mythologie ?
Alors, ce sont des conférences qui partent bien sûr depuis la mythologie, parce que le ciel et notamment les dieux grecs plaçaient toute leur divinité, ils leur donnaient une histoire, leur donnaient aussi des turpitudes, et qui leur accompagnaient, qui les accompagnaient dans le quotidien et qui justifiaient chacun de leurs actes. Donc les étoiles étaient un monde à la fois éloigné et proche, qui les rassurait dans leur devenir, ou des fois qui les inquiétait en fonction des mythes et des légendes accordées à ces dieux.
Pour revenir sur l'astronomie et la mythologie, on a attribué à des constellations des noms à des personnages mythiques,
bien sûr,
entre autres.
Jupiter, Mars, la chevelure de Bérénice, il y en a plein d'autres, bien sûr.
Et par quels moyens est-ce que l'astre ou la voûte stellaire a inspiré ces poètes grecs ?
Alors, c'est poète, mais aussi, il faut... Alors, vous avez raison de parler des poètes grecs, mais il faut savoir quand même que les premiers astronomes qui ont laissé des traces marquées, ce sont les Sumériens dans la vallée de l'Irak, entre le Tigre et l'Euphrate, à Babylone. Les Incas aussi étaient des astronomes extrêmement intéressants parce qu'ils avaient réussi à déterminer, simplement avec les pyramides à degrés, une année de 365 jours, un tiers, un quart, simplement en additionnant les marches des grandes pyramides qu'il y a dans les Andes.
Alors, on peut présenter aussi un peu plus François Legendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de lui ?
François Legendre est historien de l'art. Il a un site internet extrêmement fourni que je vous invite à aller découvrir. Il a écrit des thèses et puis aussi beaucoup d'études intéressantes sur l'époque médiévale aussi, parce que c'est un domaine qu'il passionne et sur lequel il fait beaucoup d'interventions en faculté, en université.
Autour de ce mercredi et autour de cette conférence, il y aura une promenade familiale sur le thème du système solaire. Ça consistera en quoi ?
C'est-à-dire ce qu'on appelle un sentier des planètes, c'est une comme marqué sur le programme, c'est une marche avec un astronome qui explique à l'échelle, mais à une échelle très réduite, la disposition des planètes du système solaire, de notre système solaire, sur un chemin. Donc on va placer le Soleil qui sera une boule gigantesque, on va placer Mercure à quelques mètres, qu'on peut symboliser par un enfant, on lui dit « toi tu es Mercure, tu vas te tenir à 1,50 m du Soleil par exemple, ou même à 50 cm, mais c'est une échelle symbolique. Et un peu plus loin on va placer Vénus et ainsi de suite Mars, la Terre, et on va aller jusqu'à Jupiter, Neptune, après Saturne, enfin les neuf planètes du système solaire. Sauf que pour aller à Pluton, par exemple, si on part de Marignac, pour aller à Pluton, il faudrait presque aller soit à Vassieux en Vercors, ou soit à Saint-Julien-en-Quin, voire au-delà, pour être à peu près à une échelle relative et réaliste. Bon, on ne peut pas demander ça à des enfants, bien sûr. Mais enfin, je vous signale que Pluton est sorti du système solaire.
Ça a été confirmé dernièrement ?
Ah oui, l'Association internationale des astronomes, la sortie du système solaire, c'est officiel.
Et c'est dû à quoi ?
Mais parce qu'elle avait été découverte par les Américains et il y a beaucoup trop... si, je m'avance, j'ai pas assez de compétences. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait trop de satellites autour. Voilà, j'en sais pas plus.
Et ça implique quoi, du fait qu'il y ait plus de satellites ?
Sa petitesse, et puis alors qu'il y avait beaucoup d'objets qui étaient beaucoup plus intéressants à sa proximité, bien que Pluton soit une planète très intéressante, je crois.
Donc, à partir de 22h, toujours mercredi, voilà, c'est le moment d'observer le ciel.
Oui, il y aura quelques astronomes, vous avez raison. Il y aura bien sûr des télescopes pour observer et admirer le ciel. Mais également, il y aura une antenne de radioastronomie qui permet d'écouter le ciel. Et écouter le ciel, c'est important parce que les radioamateurs se basent sur des bandes de fréquences qui sont libérées par l'armée, mais qui, à une certaine altitude, permettent d'écouter les météores qui fondent et qui explosent dans le ciel, quand ils rentrent dans l'atmosphère. Ça fait un bruit assez particulier et qui est mélodieux même. Également, dans la journée, alors j'insiste aussi, parce que dans la journée, on pourra écouter les rayonnements solaires.
Alors, vous parliez de bandes. Vous savez, vous connaissez la largeur qui est praticable ? Non, vous ne connaissez pas ? Bon, ça va se renseigner sur un site internet bien informé. Au niveau du matériel, comment ça se passe ? Il y aura du matériel pour observer ?
Alors, il y aura des télescopes, des miroirs, enfin des télescopes, quelques-uns, et aussi une antenne de radio intéressante. Et. C'est le jeudi, il est demandé aussi aux enfants de faire des expériences avec des simples appareils de radio. Alors bien sûr, on pourra écouter Radio Diwa, mais on peut arriver à écouter des orages qui sont très 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 lointains dans l'atmosphère, qu'on peut arriver à entendre, dont on peut écouter l'écho. Également, on peut écouter des orages, mais aussi, bien sûr, des météores et même arriver à entendre des phénomènes célestes très lointains avec un simple appareil de radio. Ce qui est important, c'est d'avoir la formation pour pouvoir régler l'appareil. Il faut, avec un appareil moyen, ou même de bonne qualité, on peut avoir des réceptions intéressantes.
Et tout à l'heure, vous parliez aussi d'écouter le ciel.
D'écouter le soleil.
D'écouter le soleil, hein. D'accord. Il n'y a pas possibilité d'écouter autre chose que le soleil.
Alors,
il faut des moyens beaucoup plus conséquents.
Il est possible, par exemple, d'écouter des... On peut écouter... Il y a eu des expériences scientifiques qui ont permis d'écouter le Big Bang, par exemple. Mais là, il faut une antenne de radio extrêmement importante, gigantesque, quoi. Et ça, ça a été découvert après la guerre par des Américains. Mais écouter le soleil, oui, ça on peut le faire, même sur Internet, mais à Marignac, ça sera possible.
Avec ça, c'est une question entre parenthèses, je ne sais pas si je la garderai au montage. Je voudrais savoir, vous parliez du Big Bang que certains appareils peuvent écouter.
Qui est un écho, oui.
C'est un écho, voilà. Donc, je veux dire, nous sommes issus du Big Bang, donc le son de notre création est bien parti au-delà de ce que nous sommes.
C'est un écho qui nous revient.
Voilà. Oui. Et cet écho, il se répercute depuis quel moment?
Alors, 13,7 milliards d'années.
Ça voudrait dire qu'il y a comme un mur?
Alors, il y a, dans l'espace, il y a des... Bon, il y a une étoile, il y a des planètes qui tournent autour. Des fois, il y a des barrières rocheuses. Par exemple, il y a une barrière d'astéroïdes avant les planètes gazeuses. Après, il y a ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper, qui est aussi une vaste ceinture rocheuse d'où nous viennent les comètes, parfois, ou des objets glacés. Mais ça, c'est pour notre système solaire. Mais dans la Voie lactée, mais même au-delà, qui est notre une galaxie, on estime à... des centaines de milliards de galaxies. Donc c'est le bruit de la formation de ces centaines de milliards de galaxies à un instant T qu'on a pu mesurer. C'est une mesure, en fait.
Nous allons continuer donc avec ce jeudi. Donc vous parliez de atelier de l'orage au météore avec une détection de fréquences avec
en grandes ondes.
Voilà, des grandes ondes. Je vois petites ondes et FM aussi, non?
Oui, grandes ondes et FM. Oui, c'est ça.
C'est avec Roland Clèche qui animera cet atelier.
Oui. Roland Clèche est un radio amateur passionné, bon, bien sûr, d'astronomie et aussi d'un tas de sujets, d'entomologie, de botanique, d'astronomie, et qui a des dons et des facilités pour expliquer avec des mots simples, des phrases simples aux grands enfants que nous sommes et aux enfants les phénomènes célestes.
Il exerce quelle profession ?
Actuellement, il est retraité.
Ah, d'accord. Bon, donc il a du temps à accorder aux étoiles. Et toujours comme la veille, hein, observation du ciel.
Il y aura observation du ciel, oui, bien sûr.
Avec des repérages à retrouver. Ça permet de se retrouver la nuit aussi, hein, les étoiles.
Alors les étoiles, bien sûr, comme la Grande Ourse, comme Cassiopée, comme la chevelure de Bérénice, comme des étoiles intéressantes comme Sirius ou bien Jupiter ou bien des Orion peuvent aider à se retrouver quand on marche dans la forêt la nuit ou dans des chemins du Diwa la nuit, bien sûr.
Nous arrivons pour le vendredi avec, dès l'après-midi, des contes lus par qui, d'ailleurs?
Alors, c'est lu par Régine Gay, qui est une habitante de Marignac, qui s'intéresse beaucoup aux enfants, qui aime beaucoup les enfants et qui leur racontera des histoires dans une partie de la forêt qui est à l'aire de loisirs.
Des histoires qui se rapportent aux étoiles?
Forcément.
Voilà. Il y aura le Petit Prince un peu?
Ah, c'est une surprise, je ne peux pas dévoiler tout le programme non D'accord. plus, on ne peut pas tout mettre tellement c'est chargé.
À la suite, il y aura un travail... Ah oui, il y a aussi l'atelier fusée à eau.
Alors ce sont des expériences faites avec des bouteilles d'eau. Alors s'il y a des enfants qui veulent venir avec des bouteilles d'eau, c'est possible. On leur apprend à pouvoir lancer une bouteille d'eau en l'air à une bonne altitude avec un effet de pression. Voilà. Je ne peux pas en dire plus non plus, c'est une surprise.
Puis la restauration sur place, alors comment ça se passe?
Alors là, c'est une entreprise extérieure, c'est Madame Floriane qui fait la restauration sur place. Voilà.
Il y aura pour tous les goûts?
Ah oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Pour les appétits affamés, bien sûr.
Ça donne faim, l'astronomie?
Ça donne faim et ça donne soif, oui.
On continue sur ce jour, sur ce vendredi 28, avec le système solaire aujourd'hui.
Oui. Alors, c'est une conférence de Monsieur Gérard Houdenot, qui était directeur du département d'astronomie au Palais de la Découverte à Paris, et qui nous fait la gentillesse et l'amabilité de bien vouloir nous présenter ses compétences par un petit diaporama sur le système solaire, sur les distances des planètes, et par exemple sur les traces d'eau qu'on trouve sur la Lune, sur des sujets comme ça.
et qui a été directeur responsable au palais des...
Au palais de la découverte à Paris, oui. C'est le spécialiste français aussi des cadrans solaires.
Le système solaire aujourd'hui, il est différent de celui d'hier ?
Alors, il est différent dans sa description, il n'est pas différent dans sa réalité. Il est différent dans la façon dont les hommes le perçoivent. Kepler, par exemple, qui était un mathématicien et un astronome, a défini le système solaire à sa façon, tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais comme il était astrologue, il voyait des formes et des par planète qui étaient pas réalistes par rapport à la perception scientifique que nous en avons actuellement, parce que lui, il avait une perception symbolique.
Après, il y aura toujours ce repas ce vendredi, et à 20h30, une nouvelle conférence, ou c'est toujours la reconduite ? Non, c'est une nouvelle conférence.
C'est une nouvelle conférence de Monsieur François Legendre, qui est historien de l'art.
Une conférence qui sera sur l'espace de l'astronomie, espace de l'art.
Voilà, c'est-à-dire, tout à l'heure vous évoquiez la mythologie grecque, mais il y a plusieurs mythologies qui s'intéressent aussi à l'histoire des planètes, enfin à l'histoire que les hommes ont attachée aux planètes, et c'est cette énumération dont il veut nous faire état.
Il m'arrive parfois de voir des rendus picturaux d'astronomie faits par des scientifiques.
Des astronomes amateurs, oui.
Même, je parle de scientifiques, c'est-à-dire professionnels, et quand on regarde leurs images, est-ce qu'ils ne seraient pas aussi des artistes ?
Alors la réflexion que vous faites est très intéressante, parce que quand on voit par exemple des constellations, c'est vrai qu'on a de quoi être émerveillé, réellement émerveillé, quand on voit des photographies du télescope Hubble ou bien des télescopes comme il y a au Mont Parana au Chili. C'est réellement stupéfiant de beauté, réellement, et de luminosité et de délicatesse. Réellement, quand on voit des nuages ou des naissances d'étoiles, c'est réellement superbe. Même simplement, j'ajoute, simplement voir Saturne ou voir les anneaux de Saturne, qui est une des planètes les plus lointaines dans notre système solaire, déjà avec j'ose pas dire avec des jumelles, mais enfin avec un bon télescope d'une bonne qualité. Déjà, c'est étonnant. Voir Jupiter, moi il m'arrive souvent de regarder Jupiter, on peut voir la tache de tempête qui est une couleur rouge et qui tourne régulièrement. Si on l'observe plusieurs jours à des heures de la nuit différentes, on peut voir les satellites qui tournent autour et l'emplacement parfait de ces satellites sur un plan et à des places différentes suivant le moment où on les observe. Ça, c'est réellement étonnant à voir.
Ensuite, pour 22 heures, sous la voûte céleste, approchez-vous de Cassiopée. Voilà, donc c'est une invitation à l'observation et une confirmation de cette première présentation de l'histoire de l'art avec l'histoire de l'astronomie.
C'est aussi surtout, on a mis cette phrase en fait sous la voûte céleste, approchez-vous de Cassiopée, venez rêver dans la chevelure de Bérénice. C'est une conférence, ce qu'on appelle une conférence en direct, c'est-à-dire qu'on explique... On explique aux personnes, aux curieux venus voir le ciel, le firmament, la disposition des constellations à un moment donné.
Donc ça va clore ces trois journées, ces trois nuits plutôt. Est-ce qu'il y aura, je ne dis pas toute la journée, mais je suppose que les personnes qui seront présentes, il y aura comme une espèce de communauté, je dirais, d'astronomes, de gens qui ont envie d'échanger, voilà, en dehors de ces représentations. Est-ce que vous avez prévu à cet effet un espace ?
Alors nous avons un plateau technique, et bien sûr tout à l'heure vous évoquiez la restauration et la buvette, qui seront généreusement fournis. Il y a aussi quand même un plateau technique avec un écran pour diffuser les conférences et puis accueillir le public qui pourront observer soit la radioastronomie, enfin s'initier à la radioastronomie, ou bien observer avec quelques télescopes le firmament, enfin le ciel, quoi.
Ma question est revenue, c'était celle de l'observation par les lunettes astronomiques.
Les télescopes.
Les télescopes. Parce que quelle est la différence ?
Alors, un télescope, c'est un appareil, c'est un miroir, si vous voulez, qui reçoit la lumière du ciel, qui la renvoie sous une forme de faisceau concentré dans un petit miroir de forme ovale et oblique à travers un petit objectif, enfin un objectif sur lequel, dans lequel on peut observer. Tandis qu'une lunette, on observe directement, si vous voulez, comme une paire de jumelles. Alors j'insiste, et votre question est intéressante, parce que cette année nous avons... Notre ami Roland Clèche a adapté, a fabriqué même des appareils de lunettes d'observation très puissants, mais surtout qui sont réglables en gardant le même angle d'observation, que ce soit pour les enfants ou pour les parents.
C'est, ça double la longueur focale, hein, c'est ça ?
Ben, ça augmente la longueur focale, oui, bien sûr. Bien sûr.
Et il y a des télescopes dotés de même plusieurs miroirs ?
Alors, plusieurs miroirs, non, un télescope en général a un miroir.
Suffisant, d'accord. Bon, c'était au cas où il y avait une réflexion de réflexion encore. Et oui, voilà, ma question, c'est de savoir, est-ce que les télescopes sont dotés d'un réglage ou d'une assistance robotique pour suivre l'évolution
Oui, mais c'est un investissement considérable. Ils sont motorisés, il y en a qui peuvent être motorisés avec des moteurs pas à pas, et dans lequel on a une raquette, si vous l'appelez, enfin, les Anglais appellent les go-to, et on rentre un programme et... Enfin, qui est déjà inscrit dedans. Il suffit simplement de rentrer le point GPS à l'endroit où on est. Et mettons qu'on tape Saturne dans le programme, c'est un exemple, et l'ordinateur calcule l'angle, l'azimut, et donne directement la position de Saturne à un instant précis et se règle automatiquement.
Et le suit dans sa course.
Et le suit, bien sûr, dans sa course, oui. Ce qui fait qu'on est obligé de suivre l'appareil en fonction de la vitesse de la Terre, quoi.
Voilà,
vitesse de rotation.
Voilà. Et ça, donc, ça nécessite un appareillage assez lourd.
Oui.
Qui n'est pas forcément adapté à ce genre d'activité.
Si, les années précédentes, nous avions des astronomes qui venaient avec ce genre d'appareil, mais c'est onéreux à déplacer, c'est délicat, extrêmement fragile, extrêmement fragile.
Voilà, ma question était de savoir, on n'a pas encore une démocratisation de ce type d'appareillage pour l'amateur, par exemple.
Alors, maintenant, on trouve sur des sites internet des fournisseurs de télescopes qui fabriquent sous licence américaine ou européenne des très bons miroirs, des bons miroirs pour d'observation pour les amateurs, et qui sont fabriqués en Chine, mais vraiment de bonne qualité.
Pour l'année prochaine, vous êtes en train de penser à 4 nuits ?
On ne sait pas encore. On ne sait pas encore, c'est un peu l'inconnu. C'est toujours une aventure de préparer le programme de ces nuits et de ces rencontres d'astronomie, mais c'est toujours avec passion.
Pour ce qui concerne les animations et cette organisation, vous avez le soutien de quels organismes ?
Alors, il y a une petite organisation de protection de l'environnement et de recherche scientifique qui s'appelle Marignac à ciel ouvert. Pour l'organisation technique et juridique de ces quatrièmes rencontres d'astronomie Marignac fait les étoiles, il y a le support juridique et technique d'une association de protection de l'environnement et de découverte scientifique qui s'appelle Marignac à ciel ouvert, qui est en partenariat, et nous avons le partenariat aussi actif, et je les salue, de la commune de Marignac. Nous avons Roland Clèche, qui est radio-amateur et astronome, et bien sûr François Legendre, qui est professeur d'histoire de l'art et de sciences humaines. Et ne pas oublier, bien sûr, M. Oudonneau, qui est ancien directeur du département d'astronomie du Palais de la Découverte de Paris.
Et l'affiche a été faite par qui ?
Alors, l'affiche a été faite par une personne qui est graphiste. Je recherche son nom, j'ai dû vous mettre le nom. C'est Mademoiselle Vacher.
Et ma question, quand je vois l'affiche, c'est réellement la vision qu'on a depuis le site
Alors, elle a été prise sur le plateau du Vercors par un guide de montagne qui habite de Marignac, qui
oui.
s'appelle Vincent Astier. Voilà,
d'accord.
Je le salue d'ailleurs.
Non, parce que je vois la dent de Die et...
Oui, elle a été choisie à dessein, bien sûr.
Vous connaissez l'origine de ce nom ?
La dent de Die ?
Oui, comme ça, juste. Non.
Pas du tout. Non, parce qu'elle ressemble à une dent, ça c'est évident. Mais bon.
Oui, oui. Eh bien, voilà, donc je rappelle aux auditeurs les 26, 27, 28 juillet, les nuits, donc, des quatrièmes rencontres d'astronomie sur l'aire de loisirs de Marignac, en Diois. Eh bien, Bernard Cellier, merci d'être venu. Oui, vous
voulez alors, rajouter. J'ajoute juste une petite chose. Il sera aussi à disposition du public des cartes du ciel. Et également, nous observerons le passage de la Station Spatiale Internationale.
Et par ailleurs, est-ce que vous avez un blog ou un site où on peut visionner votre activité ?
Il est en construction. Il est en construction actuellement.
Vous le ferez connaître prochainement.
Alors, nous ferons connaître pour la semaine prochaine, pour le 26 et 27-28 juillet. Et s'il y a des personnes qui veulent adhérer pour avoir plus d'informations sur nos activités, nos rencontres, les promenades botaniques que nous faisons, par exemple, ou des choses comme ça, il sera possible pour adhérer pour une somme très modeste de 1 euro.
Eh bien, Bernard Cellier, bonne soirée.
Eh bien, je vous remercie beaucoup. Et puis, longue vie à Radio DIY et aux rencontres d'astronomie.
Et que pour les étoiles, ce soit pareil.
Formidable, merci.
Okay, the bird.